rester.
Voilà. Nous voulons bénir le Seigneur pour sa grâce, cette grâce qui nous permet de nous réunir en son nom pour le célébrer, pour le louer, dimanche après dimanche. Et c'est cette joie qui ne dépend ni des temps ni des circonstances. Notre joie n'est pas que sentiment, elle est aussi reconnaissance, même dans les moments qui peuvent être difficiles. C'est pas que nous sommes inconscients des difficultés de notre vie, non. C'est parce que nous savons sur qui nous pouvons compter dans les difficultés que nous pouvons rencontrer. C'est de là que naît notre joie, n'est-ce pas? Mais cette joie, nous ne pouvons la vivre que si nous sommes dans la perspective du Seigneur, parce que les autres ne la comprendraient pas. Ils ne comprendraient pas pourquoi on traverse un moment difficile et que quelquefois on est si serein, même si on est troublé. Ils disent, oulala, ces gens qui appartiennent à des sectes. Non, nous n'appartenons pas à une secte. Nous ne sommes pas inconscients des difficultés que nous pouvons traverser. Au contraire, nous sommes bien conscients. Parce que nous savons que malheureusement, le péché nous atteint. Et qu'à cause des conséquences du péché originel, nous sommes sous le poids de la souffrance. Et que cette souffrance est liée au péché. Et nous sommes victimes du péché. Mais Christ fait grâce. Et c'est tout le sens de la Sainte Cène. En sa mort, Dieu nous donne une espérance nouvelle. Une espérance qui s'attache au fait que Christ a porté nos souffrances, a porté nos malédictions, même si nous continuons d'en vivre encore les effets. Mais ces souffrances et ces malédictions ont été portées par le Christ une fois pour toutes. Et l'Église attend ce jour bienheureux où il n'y aura ni souffrance, ni pleurs. Pour l'instant, nous sommes encore ici, mais nous ne sommes pas seuls. Il a dit, je ne vous laisserai pas orphelins, car je vous enverrai l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit est là. Et c'est justement porté par l'Esprit que l'apôtre Paul et tous les auteurs bibliques nous ont laissé la parole de Dieu. C'est l'Esprit qui les a conduits dans cette écriture de la parole. Et je ne sais pas pourquoi, mais ces derniers dimanches, je n'arrive pas à me départir de ce texte de Romains chapitre 12. Quand je pense à l'Église, quand je pense au message à apporter, depuis trois dimanches, c'est ce texte qui me... J'ai l'impression qu'il s'impose à moi. Et j'aime souvent laisser Dieu s'imposer à moi comme ça. J'aurais pu choisir, il y a tellement de textes dans la parole. Mais quelquefois, quand nous voulons apporter le message pour le peuple, nous demandons, comme Stéphane l'a dit, Seigneur, qu'est-ce que tu veux dire au peuple? Pas ce que je veux dire, mais qu'est-ce qui serait utile pour ce dimanche, en tout cas pour tes filles et pour tes fils, et même pour ceux qui n'ont pas encore fait la paix avec toi, mais qui nous visiteraient. Qu'est-ce que tu voudrais qu'ils entendent? Alors, je me suis laissé convaincre que ce texte était encore bon à redire ce matin. Romains chapitre 12, verset 1. À 2 et ensuite le verset 9 à 20. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, sain, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable. Et parfait. Pour cette première partie de ce texte, je lirai la seconde partie plus tard. Dimanche dernier, nous avons parlé du thème de la métamorphose, n'est-ce pas? Nous avons tout de suite embrayé sur le verset 2. Soyez transformés. J'aimerais remonter pour insister sur le verset 1. Quand on lit ce texte qui est dans l'épître aux Romains, et cette épître est une épître, je l'ai déjà dit, une épître assez solide dans ce que l'apôtre Paul, poussé par Dieu, peut communiquer l'essentiel de la foi chrétienne aux enfants de Dieu. Nous avons commencé par le chapitre 1, où l'apôtre Paul affirme massivement qu'il n'a point honte de l'évangile, car l'évangile est une puissance pour le salut de quiconque croit, mais malheureusement, pour ceux qui se perdent, elle est aussi là pour les juger. Et il dit, que personne ne peut ignorer la présence de Dieu dans tout le chapitre 1. Il dit, car ce qui est invisible se voit à l'œil nu, la nature, n'est-ce pas? Et le monde, la société sans Dieu, notre société sans Dieu, et des grands scientifiques disent qu'ils ne sont pas religieux, mais en même temps ils disent qu'ils ne sont pas athées, mais ils croient en ce qu'on appelle le déisme, c'est-à-dire qu'il y a peut-être une force qu'ils ne connaissent pas, qui a établi les choses, parce que d'après leur conception scientifique, les choses sont tellement bien ficelées que ça ne peut pas être le fruit d'un hasard. Mais après, ils appellent ça la théorie de l'horloger. Donc pour eux, il y a un horloger qui a fabriqué une montre, mais qui l'a laissée quelque part. Et que désormais, celui qui a la montre, c'est à lui de la gérer. Donc voilà, donc les êtres humains ont découvert cette montre, ils la gèrent comme ils peuvent, parce que le propriétaire initial, il ne sait même pas où il est. Bref, et l'apôtre Paul dit massivement dans l'épître aux Romains, car c'est Dieu qui est créateur. Et c'est à lui que nous devons rendre notre adoration. Et il continue tout le long de ce chapitre jusqu'au chapitre 12. Et au chapitre 12, il arrive à cette conclusion. Si Dieu est créateur, si Dieu est si bon, parce qu'il a démontré toute la bonté de Dieu au cours des 11 chapitres, et si Dieu est si bon, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Ben, il nous reste à adopter des principes qu'on appelle une morale, ou on peut appeler encore une éthique. Donc, une façon de vivre. Une façon concrète et pratique de vivre. Et il veut la mettre en opposition à la façon dont le monde de son époque vivait. Mais c'est une continuité. Hein. Donc, il en met en opposition à trois autres façons de vivre dans le monde. Donc, il parle d'abord des religieux. Hein. Il oppose aux religieux, parce que les religieux, c'est ceux qui croient que par l'ensemble des règles et des commandements à suivre, on arrive à atteindre Dieu. N'est-ce pas? Ça s'appelle quelquefois le légalisme. Hein? Tu ne feras pas ci, tu ne mangeras pas ça, tu ne dormiras pas comme ça, tu marcheras comme ça. C'est les tu. Comme si nous étions des enfants. Alors que Dieu nous considère comme des êtres matures, sensibles, dotés d'intelligence, capables de discernement. Donc Dieu ne nous met pas que des commandements. Il a fait ça dans le temps passé. Pourquoi? Il dit, Israël, parce que tu étais encore tout petit, j'ai donné les commandements. Mais c'était pour t'amener à maturité jusqu'à l'avènement du Fils de Dieu. Et depuis l'avènement du Fils de Dieu, il dit, vous n'êtes plus des enfants. Vous êtes arrivés à maturité. Donc le commandement que j'ai donné, certes, il n'est pas mauvais. Mais c'était pour un temps. Maintenant, les commandements, ils ne vont pas vous imposer ces commandements. C'est à vous de voir le bon sens de ces commandements et de les vivre sans que vous soyez sous le coup d'une imposition, d'une obligation, du légalisme. Et les pharisiens n'avaient pas compris. Ils continuent avec des lois et des règles. Et Jésus les a confrontés plusieurs fois. Hein? Il dit, il a été écrit, mais vous avez dit au peuple de faire ceci. Ce n'était pas comme ça. Hein? Parce que selon les pharisiens, on appelle ça la théologie, j'oublie le terme technique, mais en fait, les pharisiens, lorsqu'il y avait une loi, par exemple, je prends n'importe quelle loi, hein, tu respecteras le sabbat. Okay? Donc, le septième jour, tu ne dois pas faire d'activité. Qu'est-ce qu'ils font? Dans ce qu'ils appellent les commentaires des rabbins, on met six autres lois, hein, qui ne sont pas de la Bible, mais qui sont érigées par les rabbins. De sorte que, avant que tu n'enfreignes peut-être la vraie loi, tu devras surmonter six lois, de sorte que, pour eux, si tu es capable de surmonter six lois, c'est que tu es si mauvais que ça, et que finalement, tu vas atteindre la vraie loi de Dieu. Jésus dit, mais c'est trop ça. Et c'est comme ça que le jour du sabbat, ils ont mis des règles. Tu ne dois pas marcher tel nombre de kilomètres. Ce n'était pas dans la loi. La loi dit simplement, c'est le jour du sabbat, il faut te reposer. Et eux, ils ont mis des lois comme ça. Le jour du sabbat, tu dois peut-être marcher 10 000 kilomètres, pas 100 000 kilomètres. Jésus dit, mais ce n'était pas ça au départ. Et c'est pour ça que Jésus a tout ce discours avec eux. Pourquoi? Parce que finalement, les pharisiens, ils avaient mal compris les choses. Ils avaient commencé à encadrer tellement le peuple avec des lois qui écrasaient le peuple. Et l'apôtre Paul dit, la morale chrétienne, ce n'est pas les « tu ne boiras pas, tu ne dormiras pas ». Ce n'est pas ça la morale chrétienne. Il dit, la morale chrétienne, ce n'est pas non plus celle du monde païen de l'époque, la permissivité. Hein, c'était ça le monde gréco-romain. Hein, c'était le laisser-faire. Et l'apôtre Paul, en parlant aux Corinthiens, il a dit cette phrase qui est une phrase qu'il a tirée de la philosophie grecque, « tout est permis ». Et l'apôtre Paul va avoir cette expression poussée par Dieu, « oui, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Oui, tout est permis, mais tout n'est pas, tout n'édifie pas.
Oui, tout est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit.
Oui, dans un monde où Christ nous a libérés, nous sommes vraiment libérés. Il avait dit, si le Christ vous a franchi, vous serez réellement libre. Mais libre de faire quoi? C'est ça la question. Libre de faire ce qu'on veut. Tout en sachant que nous ne savons pas ce qui est bien, ce qui est mal. Parce que nous sommes malheureusement influencés par le péché originel et que notre tendance naturelle, c'est de faire plus le mal que le bien. Finalement, si Christ nous a libérés, c'est pour faire le bien selon la parole de Dieu. Et donc, ce n'est pas cette morale qui dit, voilà, je peux tout faire, mon corps m'appartient, j'en décide. Non. La troisième morale qu'il met en opposition, c'est la morale des stoïciens. Donc, ces philosophes gréco-romains qui disaient, voilà, l'homme est capable de maîtriser tout de soi, la maîtrise de soi, la maîtrise de la raison. Par la raison et par la maîtrise de soi, on peut être quelqu'un de bien. Le monde a démontré que ce n'est pas vrai. Parce que même quand l'intelligence la plus fuitée d'entre nous se met en exercice pour produire quelque chose de bien, on en fait quelque chose de mal. Quand Einstein, selon l'histoire, a découvert cette formule de la mathématique quantique, il n'avait jamais pensé qu'on allait prendre ça pour faire une bombe atomique. Jamais. On a pris cette formule, on a fait la bombe atomique, et on sait ce que ça fait à Hiroshima et à Nagasaki. Et le monde a dit plus jamais de bombe atomique. Alors qu'il avait créé. Et les mathématiques quantiques nous aident dans bien de domaines aujourd'hui de modernité. Et pourtant, on a réussi à faire une bombe atomique avec ça. Voilà comment nous sommes. Notre maîtrise, notre raison, notre maîtrise, notre sagesse nous conduit quelquefois, non, trop souvent, au mal plus qu'au bien. Et c'est pour cela que dans le milieu scientifique, on a développé cet adage, science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Si la science ne fait que faire des progrès sans tenir compte, moi j'en dis de la loi de Dieu, elle nous traîne toujours vers le mal et non vers le bien. Alors, l'apôtre Paul, dans cette épître, chapitre 12, verset 1, il dit, je vous exhorte donc, frère, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant. Donc, cette morale est une morale réaliste. Elle n'est pas dans une illusion. Nous ne sommes pas capables de vivre selon Dieu. Nous ne sommes pas capables. Déjà, quand nous ne sommes pas chrétiens, c'est impossible. Et même quand nous sommes chrétiens, nous faillissons. Beaucoup de fois aussi. Donc, ça montre qu'on n'est pas capable. Et avec Israël, Israël a bien montré qu'il n'était pas capable. Sur la continuité d'être continuellement obéissant à la loi de Dieu. Mais cette morale nouvelle s'appuie sur la volonté, sur l'exhortation. L'apôtre Paul n'oblige pas, il dit, je vous exhorte, donc je vous invite, je vous incite à réfléchir en vous-même. Pourquoi? Parce que derrière, il y a tout ce que Dieu a fait. En reconnaissance de la bonté de Dieu. Est-ce que ça ne vaut pas la peine de réfléchir et de me dire, en regardant ce que Dieu a fait pour moi, ce que Dieu a changé dans ma vie, est-ce que ça ne vaut pas la peine d'avoir une nouvelle façon de vivre, selon lui? Et c'est une morale du don de soi. On n'est pas là pour regarder ce que l'autre fait de bien ou de mal. Moi d'abord. Ça s'adresse à moi. Moi-même, comment puis-je continuer à vivre une vie qui plaît à Dieu, tout en sachant que quand on dit plaît à Dieu, c'est que Dieu veut que toi-même tu sois heureux. Souvenez-vous des béatitudes, n'est-ce pas? Dieu veut que tu sois bienheureux. Il n'est pas là pour te donner un ensemble de rituels et de commandements qui te rendent triste, amer, aigri, et que la société voit que tu es quelqu'un de pas joyeux, parce que tu es toujours coincé, parce que tu dois pas manger ci, parce que tu dois pas boire ci, parce que tu dois pas aller là, parce que tu dois pas porter telle chaussure. Parfois, c'est très subtil, mais ça va dans des détails. Et tu te dis, oulala, si c'est ça la foi chrétienne. Et on a entendu beaucoup de raisonnements comme ça. Et que peut-être nous-mêmes, on a eu ces raisonnements avant que Dieu ne nous touche. Parce que ceux qu'on voyait, on disait, oulala, ils sont bien tristes, ces chrétiens. C'est pas ça. C'est une éthique qui te transforme. C'est une parole qui te change et qui te change ta perspective de la vie dans le sens bien du terme. Et l'apôtre Paul dit, je vous exhorte donc, frère, par les compassions de Dieu. Ici, l'apôtre Paul sollicite notre responsabilité, n'est-ce pas? Il ne veut pas obliger les chrétiens à marcher selon Dieu. Ça, ce n'est pas sage, parce que nous sommes des adultes, n'est-ce pas? C'est pour ça que la foi chrétienne s'adresse à des adultes dans le sens, pas forcément de l'âge, mais dans le sens d'un être humain, qu'il soit plus jeune ou moins jeune, qui est capable de recevoir une pensée, de l'analyser et de faire un choix. Et l'apôtre Paul et le Seigneur Jésus, quand ils s'adressaient à chaque fois à leurs auditeurs, ils ne les prenaient jamais pour les enfants. Et le Seigneur Jésus avait toujours cette formule. En fait, la façon dont le Seigneur parlait, c'est à chaque fois, qu'en penses-tu? On lui ramenait une question et il disait à l'autre, oui, tu m'as posé la question, mais toi-même, que penses-tu de cette question? Et c'est à la suite de la réponse de la personne qu'il donnait un éclairage. Parce qu'il considérait toujours les gens qui s'approchaient de lui. Il n'était pas dans ce paternalisme béant où il disait, oh là là, ces pauvres, ils ne savent pas que penser. Non. Il savait que nous avions cette capacité, même si elle était un peu flouée, si elle était beaucoup embrouillée par le péché. Je vous exhorte, donc frère, par les compassions de Dieu, le sentiment de l'immense compassion de Dieu envers les êtres doit nous donner de changer notre perspective. Quand nous regardons ce que nous étions, selon la pensée de Dieu, la Bible dit que nous étions rebelles, loin de Dieu, insouciants. Nous ne le connaissions même pas. Et nous vivions nos vies comme nous le voulions, avec les principes de notre monde dans lequel il y a de bonnes choses, mais qui massivement ne nous traînent pas vers Dieu. N'est-ce pas? Si on reste dans le courant de nos sociétés, on ne sera jamais amené à Dieu. Jamais, puisque notre société a pris le pari d'être une société... En fait, notre société a pris le pari d'être une société laïque, mais globalement, c'est une société athée. Disons les mots, c'est ça. La laïcité aujourd'hui, c'est être plus athée qu'autre chose. Puisqu'à chaque fois qu'on parle de religion, on dit, ça c'est dans la sphère privée. Mais les philosophes athées, ils ont la part belle dans les médias, ils peuvent venir dire tout ce qu'ils veulent sur le fait que Dieu n'existe pas. Combien de fois vous avez vu des hommes religieux être invités dans des plateaux télé pour parler de Dieu? Mais combien de fois on a vu des philosophes qui affirment devant les écrans être athées, mais qui ont la liberté de s'exprimer? Donc finalement, globalement, on a pris l'hypothèse que notre monde est un monde sans Dieu. Et que la laïcité, bon, c'est le petit cadeau qu'on fait aux religieux, ils peuvent quand même avoir leur foi dans leur lieu privé, s'ils ne dérangent personne. Que Dieu nous aide. Nous ne sommes pas dans une revendication violente, nous sommes juste là pour vivre notre identité. Nous sommes chrétiens, appelés par Dieu. Et ce sentiment que Dieu, finalement, malgré toutes ces choses qu'on lui fait, malgré toutes ces choses qu'on lui fait pas, malgré le fait que le monde ne veut pas de lui, il est en action pour sauver autant de personnes parce que son amour continue, siècle après siècle, à agir dans le monde. Devant la laideur du péché, et je ne vous décris pas la laideur du péché, nous la voyons au quotidien, n'est-ce pas? Les faits divers sont remplis de la laideur du péché. Ne serait-ce que pour cet état. Mais nos cœurs sont remplis de la laideur du péché. Nos pensées qui ne sont pas toujours bonnes. Toutes ces choses. Malgré tout cela, Dieu vient à notre rencontre. Parce qu'il a un projet d'amour. Ce projet, c'est de nous transformer pour que nous vivions l'amour selon Dieu. N'a-t-il pas dit que le premier commandement, c'est « Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force ?» Et le deuxième qui lui est semblable, c'est « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » N'est-ce pas un projet incroyable, ce projet-là? Alors, si c'est vrai que ce Dieu est un Dieu d'amour, l'apôtre Paul dit « Je vous exhorte donc à considérer qu'il est un Dieu d'amour et qu'ensuite vous puissiez offrir votre vie comme un sacrifice vivant. » Il rappelle que l'amour de Dieu a pris la forme d'un sacrifice, n'est-ce pas? L'amour de Dieu a pris la forme d'un sacrifice. Christ est mort pour nous. Il dit, on ne me prend pas la vie, mais je la donne. Je donne ma vie pour ceux que j'aime. Et le texte nous a été redit encore ce matin. Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Il a donné en sacrifice. Et Christ dans les psaumes dit, envoie ma paix, envoie-moi. Envoie-moi. Et dans l'épître aux Hébreux, il dit, je suis venu pour faire quoi? Pour libérer mes frères. Il dit, mort, où est ton aiguillon? Car j'étais vaincu pour que mes frères n'aient plus peur de toi. Et que désormais, ils soient libérés, qu'ils aient l'espérance. C'est pour ça que je suis venu. L'amour de Dieu a pris la forme d'un sacrifice. Alors, nous les disciples, nous les suiveurs de Jésus, nous les chrétiens, nous sommes aussi appelés à faire de notre vie, de notre existence, un sacrifice. Pas en mortifiant nos corps, non, c'est pas de ça qu'il s'agit. Mais en considérant ce que Christ a été, son modèle, et de voir comment nous pouvons suivre ce modèle-là, n'est-ce pas? Ce qui nous est demandé, c'est un culte raisonnable, un culte spirituel. Et ici, quand il parle du culte spirituel, il ne parle pas du moment où nous sommes rassemblés. Il en parle dans d'autres textes, mais ici, il parle de ta vie, que ma vie soit un service quotidien pour Dieu. Car le culte, c'est ça. Le culte, c'est le service. Dans l'Ancien Testament, c'est le service que les sacrificateurs venaient offrir pour le peuple, mais en liaison avec Dieu. Et désormais, dans le Nouveau Testament, depuis que Jésus est rentré dans le monde, le service, c'est nos vies. Nos vies sont au service de Dieu. Tout en nous rappelant les deux premiers, les deux commandements. Il dit, il y en a pas deux, il y en a un seul. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est ça le service de Dieu. C'est ça le culte. C'est ça ton culte à toi. C'est ça mon culte à moi. Mon premier culte, c'est celui-là. Aimer Dieu. Et Jésus dit que l'amour de Dieu n'est pas d'abord un sentiment. C'est une reconnaissance de ce qu'il a fait pour moi et une obéissance à ses commandements. Et il dit, ces commandements ne sont pas lourds, c'est plus des obligations. C'est que mon intelligence accomplit, que c'est pour mon bien, ces commandements-là. Et qui sont là pour me donner de vivre la mort de Dieu. Frères et sœurs, ce culte est un culte raisonnable, un culte qui sert Dieu. On dit qu'un philosophe grec a dit, si je suis un être de raison, bah, naturellement, je dois obéir à Dieu. C'est un philosophe grec qui l'a dit. Et c'est ce que l'apôtre Paul dit dans l'épître aux Romains. Si Dieu existe, et il existe, naturellement, nous devons être poussés à adorer Dieu. Et adorer Dieu, c'est l'aimer. Et l'aimer, c'est le servir. Et le servir, c'est vivre sa parole, frères et sœurs. Et il dit alors, si c'est le cas, ne vous conformez pas. Donc, il y a une invitation, il y a une exhortation, il y a un encouragement à regarder comment nous voulons vivre depuis que Dieu nous a montré le bon chemin. Mais il y a aussi un encouragement à se positionner vis-à-vis d'un monde qui, dans beaucoup d'aspects, ne va pas dans le sens de Dieu. Et c'est pour cela qu'il dit, ne vous conformez pas au monde présent. Alors, de quoi s'agit-il? Il ne s'agit pas de couper nos relations sociales. Certains ont mal compris dans ce sens-là. Le monde, c'est les autres. Non, il ne s'agit pas de couper nos relations sociales. Regardez la vie de Jésus. Au contraire, on lui a reproché d'avoir toutes les relations sociales. Ouh là là, il marche avec elle-ci. Ouh là là, il allait manger celle-là. Et quelquefois, on lui a dit, s'il savait de quelle race était cette personne, il ne se serait même pas assis avec elle. Jésus n'a pas coupé ses relations sociales. Il a été toujours intègre dans son identité, dans son éthique. Et pourtant, on dit, il fait quoi? On dit, il marche et il mange chez des gens de mauvaise vie. C'était le terme qu'on employait. Et il a eu cette phrase incroyable. Il dit, oui, c'est vrai, ils ont des mauvaises vies, mais c'est les malades qui ont besoin de médecins. Donc, imaginez-vous si nous, chrétiens, nous n'avons plus de relations sociales avec ceux qui ne sont pas chrétiens. Quelle tristesse! Comment pouvons-nous démontrer l'amour de Dieu si nous sommes qu'entre nous? Je suis toujours frappé par le livre des Actes des Apôtres dès la Pentecôte. On dit qu'à cause de ce que les disciples vivaient, Dieu ajoutait jour après jour ceux qui étaient sauvés. Donc, on a l'impression qu'ils n'avaient même pas besoin d'évangéliser verbalement. Mais vu qu'ils vivaient là avec les gens, qu'ils étaient là avec les gens. Les gens voyaient ce que Dieu a fait de leur vie et pouvaient ensuite en témoigner. Alors que Dieu nous aide, frères et sœurs. Il ne s'agit pas de contester nos sociétés dans leur structure, même s'il y a de quoi souvent contester. Mais ce n'est pas ça le premier objectif de ne vous conformer pas au monde présent. Non, nous avons une société, elle est hiérarchisée. On a une république qu'il faut vivre, les lois de notre république. Hein. Même s'il y en a avec lesquels on n'est pas d'accord, on est des objecteurs de conscience, bien sûr, mais on n'est pas des anarchistes. On peut dire nos désaccords, on peut même le faire monter plus haut, mais en même temps, nous vivons dans un monde et nous respectons nos autorités. C'est dans cette même épître au chapitre 13 que l'apôtre Paul va dire « Respectez les autorités ». Quand on sait qu'il s'agissait de l'Empire, quand on sait que l'Empire était même un empire persécuteur par rapport à l'Église, il dit quand même respecter les autorités. Bref, il ne s'agit pas de refuser nos engagements. Nous avons des engagements dans cette société. Nous avons des professions, nous avons des engagements sociaux, nous avons tout ça. Ce n'est pas ça qu'il s'agit, Christ a dit, quand il dit « ne vous conformez pas au monde présent ». Par contre, il dit « il y a un esprit ». Il y a un esprit qui ne veut pas de Dieu, qui refuse Dieu et qui même repousse ce que Dieu aime. C'est contre cela qu'il faut se lever. C'est de cela qu'il faut faire attention. C'est à cela qu'il faut prêter attention. Et moi, j'ai envie de dire, oui, aujourd'hui, de façon massive, nous avons des modèles qui nous poussent dans un sens qui n'est pas celui de Dieu, n'est-ce pas? Et on est obligé de le dire comme ça. Quand je prends les vedettes du cinéma sans faire d'amalgame, mais quand je prends les vedettes du cinéma, il y a une forme de séduction dans ce qu'ils sont. On est des adultes, mais on n'est pas toujours conscient que c'est du cinéma, que c'est des montages, que leur vie de tous les jours n'est pas comme ça. On adopte leur mode de vie qu'on a vu dans un film. Mais c'est un film. C'est un film. C'est un film. Les artistes musiciens, en tout cas, quelques-uns. Il y en a qui ont une éthique, il y en a qui ont une morale incroyable, mais il y en a d'autres, franchement, ne serait-ce que les paroles de leur chant, tu te dis, la musique, elle est bonne, mais la parole, franchement, pour un chrétien, danser sur une musique comme ça, c'est quand même compliqué. Comment je peux danser sur une musique, même si elle est douce, qui dit Dieu n'existe pas? Qu'est-ce que je fais si je fais ça? Je suis contradictoire. Je suis dans une contradiction. Oui, la mélodie est belle et emballante, mais la parole dit Dieu n'existe pas et je m'en fous de Dieu. Et tu danses quand même en tant que chrétien sur cette musique. Oh là là, il y a quelque chose à faire attention. Des sportifs, des footballeurs, il y en a de belles exemples, il y en a de beaux exemples dans ce monde sportif. Il y en a de beaux. Et il semble qu'aujourd'hui, bref, je ferme la parenthèse, mais quand même, il y a parfois des choses qui ne sont pas toujours saines dans ce monde aussi. Et parfois, nos enfants, c'est leurs idoles, c'est les gens qu'ils aiment. Ce qui n'est pas toujours mauvais, mais quand même. On le vit pas encore ici, mais on le voit un peu avec le football, avec tous ces millions de... Voilà. Et il y a une journaliste qui a eu cette phrase malheureuse. On va regarder pendant un mois ces gens qui jouent à la balle et qui sont des millionnaires. C'était un peu un raccourci. Parce que c'est quand même, c'est un métier. Hein, il faut le savoir. Ils se lèvent dès 8h, ils font pas que taper dans la balle. Ils ont plein de choses à faire. Donc c'est un vrai métier, il faut les respecter pour ce qu'ils sont. Et c'est pas ça que je parle. Je parle des fois quand certains d'entre eux n'ont pas une bonne morale, alors que nos enfants les suivent, alors qu'ils sont les modèles de nos enfants. Qu'est-ce que vous pouvez dire? Et peu importe si on entend cette prédication, qu'est-ce que je peux dire à mon enfant quand un artiste musicien est un bon artiste musicien et que dans sa vie de tous les jours, il a des valeurs qui ne sont pas des valeurs chrétiennes? Qu'est-ce que je peux dire alors que mon enfant, il est attaché à cet artiste-là? Et derrière, il a des valeurs qui sont anti-chrétiennes. Il y a une réflexion. Et nos hommes politiques, j'en passe. C'est des champions. Il y en a de bons. Il y en a qui ont une éthique sérieuse et sereine. C'est pas de cela que je parle. Mais la majorité, parfois, nous font rêver. Et parfois, on est tellement déçus. Bref, il y a une pression sociale. Il faut pas l'oublier. Nous avons une pression sociale
avec tous ces acteurs sociaux. Et c'est de ça que l'apôtre Paul, dans son temps, déjà dit, faites attention, ne vous conformez pas à tout, ne gobez pas tout, ne prenez pas tout pour monnaie comptant. Ayez du discernement. Sachez analyser. Vous êtes des êtres matures, vous faites des choix tous les jours dans votre vie, aussi dans ce domaine spirituel, vous êtes capable de faire le bon choix. Et la pression sociale, nous la vivons avec des accents particuliers, l'injection de la sexualité, les styles vestimentaires, le monde musical, les boissons alcoolisées, le tabac, les drogues, les excitants et le tabac, n'en parlons pas. La société a fait, il y a quelques décennies, la même constat que ça coûtait beaucoup trop cher à la société, toutes ces maladies liées au tabac. Et du coup, la société a dit, on prend une loi, on ne fume plus dans les lieux publics. Parce que le constat qui était hallucinant, c'est que un gros pourcentage de maladies liées au tabac étaient des non-fumeurs. C'était des fumeurs passifs. Des gens qui n'avaient jamais fumé, mais qui étaient toujours dans un environnement de fumeurs. Parce que quand quelqu'un fume, qu'est-ce que tu veux bien y faire? Bah, tu vas aspirer. Bref, je ne m'étends pas dessus, mais on voit que c'est un fléau aussi dans notre société. La compréhension de la liberté face à la société, le désir de vivre un idéal qui pousse à s'identifier à des choses et à des gens, l'envie de faire toutes sortes d'expériences dans la vie. Et puis ne parlons pas de tout ce qu'il y a aujourd'hui sur le site web, internet. C'est un bel outil, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il ne s'agit pas toujours de dire c'est mauvais, non. Il s'agit de dire c'est un outil, ayant du discernement. Prenons ce qu'il y a à apprendre, mais faisons attention à ce qu'il n'y a pas à apprendre aussi dedans. Alors je m'arrête brièvement sur deux aspects. Sur la sexualité, parce que c'est l'été, c'est quelque chose qui l'été va vite, n'est-ce pas? Et que le constat est toujours amer au retour de l'été. Faisons attention. Nous sommes des chrétiens, nous avons une éthique sexuelle. Je ne rentre pas dans les détails, mais notre sexualité, elle est claire. La Bible dit que la sexualité, selon Dieu, est réservée dans le cadre du mariage. Il n'y a pas de discussion, il n'y a pas de débat. Je ne veux pas de débat ici pour ça. On pourra en discuter si certains en veulent, mais il y a des choses, parfois, on le dit simplement, il faut le dire simplement, sans trop de bruit autour. Même si c'est vrai que quelquefois, certains chrétiens ont l'impression que sur cette question-là, l'Église exagère. Quand même, c'est des adultes, ils ont le droit de vivre la sexualité comme ils veulent. Oui. Et moi, à ce niveau-là, je dis toujours, on n'est pas des voyeurs, n'est-ce pas? Des gens qui cherchent à voir la sexualité des chrétiens. C'est pas sain. C'est pas sain de faire ça. Mais on sait aujourd'hui que la sexualité a des conséquences dramatiques sur la vie de nos jeunes, surtout de nos jeunes femmes. Ça a des conséquences dramatiques. On ne peut pas jouer avec la sexualité. Notre société a fait de la sexualité un jeu. Et on en récolte chaque jour les dégâts. Chaque jour les dégâts. Chaque jour les dégâts. Que Dieu nous aide. Le style vestimentaire, ce n'est pas le lieu. On n'est pas là, on n'est pas des stylistes. Ce n'est pas à nous de dessiner le style de chaque chrétien. Quoique dans certaines religions, ils le font. Tout le monde s'habille de la même façon, avec des cagoules, ça marche. Ça ne marche pas comme ça. Dieu nous a créé avec une variété, une diversité. Dieu nous a créé beau, n'est-ce pas? Et la beauté est dans le vêtement aussi, et dans les couleurs et tout ça, c'est beau. Après, la Bible nous appelle à la pudeur, n'est-ce pas? Nous devons être pudiques. Et notre pudeur, là encore, c'est du discernement, n'est-ce pas? Nous devons discerner, non pas tout gober. C'est pas tous les styles de vêtements qui sont bien pour un chrétien, pour une chrétienne. On a un témoignage à donner. Vous savez qu'aux États-Unis, et c'est dommage, et les avocats se battent, et les féministes se battent contre ça, à chaque fois qu'on a un agresseur sexuel, le premier argument qui sort, c'est « elle m'a provoqué par son habillement ». On dit « mais quand même ». Parce qu'on a beau dire autre chose, ils sortent ça à la première défense. Comme quoi, tu peux t'habiller pour être belle, mais l'autre en face a vu dans ton habillement une provocation, une séduction. Nous devons être attentifs à ces choses-là. Et aujourd'hui, il ne s'agit pas de dire ça qu'aux femmes. Hein. Maintenant, les hommes, oh là là, s'y mettent aussi. Hein. Donc, on n'est pas dans une éthique du vêtement. On est juste pour dire,
ayons du discernement. Soyons simples. Soyons beaux. Soyons responsables. C'est l'été, il fait chaud, mais on ne va pas en mourir si on est pudique dans nos vêtements. N'est-ce pas? C'est parce qu'il fait chaud qu'on s'habille. Olé, olé. Gardons-nous purs, frères et sœurs. Faisons attention. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Je peux tout faire. Je peux tout dire. Mais les deux questions qui doivent me laisser, c'est est-ce que ça m'est utile? Est-ce que c'est utile à mon frère? N'oubliez pas, le commandement, c'est quoi? Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc, le don de soi dans l'amour, c'est je ne pense pas qu'à moi, je pense aussi à l'autre. Si je peux le faire, est-ce que ça édifie l'autre? Est-ce que c'est un signe d'amour pour l'autre? Notamment déjà dans l'église. C'est ce que l'apôtre Paul dit aux Corinthiens. Oui, il dit, toi, tu es un chrétien qui est tellement spirituellement mature que tu penses que tu peux tout faire. Tant mieux! Mais ton frère ou ta sœur qui est faible, comment va-t-elle percevoir cet aspect des choses? Sois-en sensible. Aie du discernement. Sois sensible par rapport à ça. Sois sensible. Et enfin, soyez transformé. Mais ça, je l'ai déjà dit. Hein? C'est l'image de cette chenille qui devient papillon. Nous sommes transformés du pécheur, de la pécheresse que nous étions, en des enfants de Dieu. En beauté par Dieu. Et notre projet, c'est un projet d'amour, frères et sœurs. Un projet d'amour. Alors que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Que les valeurs de la Bible soient celles qui nous conduisent. Comme Jésus, nous les chrétiens et les chrétiennes, nous sommes présents dans ce monde. Nous devons y vivre. Nous devons prendre notre part dans le monde. Toutefois, nous devons faire des choix orientés par la Bible. C'est ça, notre différence. Nous sommes appelés, non pas à nous distinguer à chaque fois. On ne cherche pas à être différent. On cherche juste à être des chrétiens et des chrétiennes. C'est ça. Ma différence, je ne la crie pas, mais je veux la vivre simplement. Pas en m'opposant à l'autre, mais en étant ce que je suis. Je suis une chrétienne, je suis un chrétien. Le chrétien est appelé quelquefois à refuser aussi d'aller dans certains sens dans lesquels la société va, mais qui n'est pas selon Dieu. C'est un défi parfois. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Il y a cet effort pour que nous n'allions pas dans les choix qui sont mauvais, mais dans les choix qui sont bons, frères et sœurs. La Bible ne nous propose pas une vie d'obligation. Non, elle nous propose plutôt une vie de discernement. On ne vit pas par défaut la foi chrétienne. On la vit de façon consciente, en étant conscient que la Bible est là et qu'elle veut nous conduire. Elle veut nous diriger dans le projet d'amour de Dieu. Alors que Dieu nous aide. Que Dieu nous encourage. Que pendant ces temps d'été, que nous laissions toujours ce que nous sommes. Nous sommes des chrétiens, nous sommes des chrétiennes. Prions Dieu. Béni sois-tu, notre Dieu. Merci de nous conduire en tant que chrétiens et chrétiennes, individuellement, mais aussi en tant qu'Église. Merci de nous bénir pour que nous soyons aussi des sources de bénédiction pour les autres. En Jésus-Christ.